Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Et en ce 11 novembre, pour célébrer l'amitié des alliés franco-britanniques, coup de projecteur sur la personnalité de la personne la plus célèbre au monde, une vraie reine, disait d'elle François Mitterrand, Elisabeth II, plongée ce matin dans la tête du monarque iconique des Britanniques. Pour beaucoup, un rock rassurant dans un monde instable et anxiogène. Quel est son caractère, la psychologie qu'elle donne à voir? Comment vit-elle au quotidien quand elle se retrouve loin de la pompe glacée de Buckingham Palace, dans son château écossais de Balmoral, où elle peut devenir pleinement elle-même? Comment peut-elle nous inspirer au quotidien, beaucoup plus que vous ne le pensez, elle qui rêvait à l'âge de 12 ans de vivre à la campagne, près de la nature, entourée de chevaux et de chiens? Enfin, pourquoi fascine-t-elle autant le monde entier et les Français furieusement égalitaires? Élément de réponse ce matin avec nos invités. Et vous, quel sentiment vous inspire la reine d'Angleterre, devenue encore plus populaire grâce à la série The Crown? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Britannique que la reine du Royaume-Uni, d'Irlande du Nord et de 15 États souverains, âgée de 95 ans, a dû entendre un milliard de fois. Bonjour Marc Roche, bienvenue en duplex de Londres, longtemps journaliste au Monde. Vous êtes désormais correspondant du Point à Londres et vous avez récemment publié chez Albin Michel « Elle ne voulait pas être reine ». Bonjour Marion Lourd.
Bonjour.
Journaliste à la rédaction de France Inter, vous publiez chez Flammarion « My Diary », le journal intime de la reine. Bonjour Thomas Pernette.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Point de vue et vous publiez un beau livre chez EPA, « Elisabeth II, les chapeaux de la couronne », un livre beaucoup moins futile qu'il n'y paraît, vous le verrez. Alors, comme le rappelle le journaliste Stéphane Bern dans le numéro de la superbe revue Légende, qui était consacrée à Elisabeth II, la reine est omniprésente dans l'inconscient collectif des Britanniques, mais pas seulement des Britanniques, Marc Roche. Pourquoi la reine d'Angleterre séduit-elle au-delà de ses frontières? Pourquoi les autres souverains d'Europe ne provoquent pas le même attrait? Le roi des Belges, la reine du Danemark ou le roi d'Espagne ne provoquent pas le même attrait qu'Elisabeth II?
Écoutez, je crois d'abord, c'est dû à l'histoire, c'est que elle est présidente du Commonwealth, c'est-à-dire la grande famille d'outre-mer, donc il y a beaucoup d'intérêts, il y a 54 pays, elle est chef de l'État de 15 d'entre eux, comme vous l'avez rappelé, et donc il y a cette aura planétaire que les autres monarchies européennes n'ont pas. Ensuite, il y a quand même l'Angleterre, l'ancien empire, l'admiration pour le faste, quand même qui contraste également avec une certaine, comment dirais-je, grisaille des autres monarchies. La monarchie britannique se donne en spectacle et elle le fait très bien. Et puis la reine Elisabeth II en tant que personnalité est extraordinaire dans la mesure où elle n'a jamais rien dit dans un monde, jamais rien dit de sa vie, en public du moins, dans un monde où tout le monde parle à tort et à travers. Tout cela fait que la reine Elisabeth est peut-être la dernière star de la planète.
Thomas Pernette.
Oui, puis je crois qu'il y a cette extraordinaire longévité. Je pense qu'on a tous des souvenirs avec la reine Elisabeth II. Moi, la première fois que je me souviens d'Elisabeth II, c'est d'ailleurs mon premier souvenir d'un événement international, c'était l'inauguration du tunnel sous la Manche avec François Mitterrand. Je me rappelle de son chapeau rose fuchsia. On a tous grandi ou vieilli. Si vous avez au moins 95 ans, vous avez toujours connu la reine.
Marion Lourd.
Bah, c'est vrai qu'elle est là depuis 70 ans. Ça veut dire qu'il faut avoir plus de 70 ans pour ne pas avoir connu la reine d'Angleterre à son poste. Donc c'est un vrai témoin historique. C'est aussi pour ça qu'elle nous intéresse. Marc Roche a raison, elle n'a jamais rien dit en public, donc c'est ce qui la rend aussi intéressante. C'est pour ça que dans son journal, bah, j'invente un peu ce qu'elle pourrait raconter. Il y a un côté mystérieux, puis je pense qu'on a un petit côté nostalgique aussi en France particulièrement, hein, de la monarchie et de ses fastes et de tout ce qu'elle représente au fond.
Alors Marc Roche, l'emblème de la royauté britannique, c'est le lion et la licorne qui symbolisent la puissance et l'imagination. Ce symbole du lion et de la licorne, c'est l'une des raisons qui explique notre fascination pour la monarchie britannique.
crois que d'abord, comme l'a dit Marion Lourd, la fascination vient au fait que les Français se sont jamais remis de l'exécution de leur roi. Ceci dit, au Royaume-Uni, ils ont également exécuté bien avant, puisqu'ils ont exécuté Charles Ier, bien avant la France. Je crois que la devise, ou l'emblème plutôt, de la monarchie, ces deux aspects, d'abord cette force, cette puissance, cette continuité historique, et puis le fait qu'elle a réussi, peut-être à l'inverse des autres monarchies européennes, de se réinventer, et enfin, et c'est là son grand talent, de s'ancrer à la classe moyenne, montante, et de se séparer un peu de son, comment dirais-je, son soutien de base, qui est l'aristocratie, l'armée et l'Église anglicane. Vous savez, les soutiens à la monarchie dans ce pays, c'est le pays profond, c'est 75 à 80% des sujets, c'est un pays de classe moyenne, c'est un pays, même s'il est marqué par les classes sociales que représente au demeurant la monarchie, c'est un pays de méritocratie, et cet attachement vient au fait qu'elle a su s'adapter à tous les bouleversements historiques qu'elle a connus.
Alors, pour l'historien anglais Théodore Zeldin, la reine d'Angleterre est une palette de couleurs dans laquelle chacun s'identifie. Vous êtes d'accord avec ça, Thomas Pernet ?
Ah oui, puis surtout quand on voit les tenues de la reine d'Angleterre, c'est certain que la palette de couleurs est là. Oui, oui, bien sûr, tout le monde s'identifie, enfin plus ou moins, à Elisabeth II, selon son âge, selon sa provenance, selon le pays du Commonwealth dans lequel il vit, ou même au-delà. C'est vrai qu'ici, on a cette formidable popularité de la reine Elisabeth II en France. On l'a vu lors de sa dernière visite, quand elle a inauguré le marché aux fleurs ici à Paris, qui a été inauguré et dont elle porte aujourd'hui le nom, plutôt le marché porte son nom. Oui, une palette de couleurs. Alors là, j'ai forcément envie de parler de la mode et de ses chapeaux, bien sûr, excusez-moi, c'est le sujet de mon livre. Vous savez que Elisabeth II n'est pas connue pour être une icône de la mode. Pour elle, la tenue est une partie de l'uniforme royal. Le chapeau est d'ailleurs, pour reprendre l'expression de l'historien et chroniqueur Robert Lacey, est un substitut de couronne. Mais malgré tout, oui, on a aussi ce souvenir de la reine et toutes ses tenues. Je suis désolé de reparler de mon enfance, mais dans les années 90, on se moquait tous des tenues de la reine d'Angleterre. Aujourd'hui, Elisabeth II est une icône de la mode. Alors, est-ce que c'est elle qui a changé ? Ou est-ce que c'est notre regard qui a changé ? C'est une grande question.
Marion Lourd ?
Mais vous savez, la devise, enfin, une des devises officieuses de la reine, c'est être vue pour être crue, to be seen, to be believed. Et en fait, avec Angela Kelly, son habilleuse, il y a une stratégie de couleur, de porter des tenues colorées quand elle est en public pour être repérée au milieu de la foule. Donc, c'est vraiment, ça correspond à une stratégie, parce qu'on voit très bien quand elle est à Balmoral, elle est plutôt dans une forme de pragmatisme, en fait, des talons plats,
Balmoral,
voire des bottes.
C'est le château écossais. Hein.
Voilà, pardon, sa résidence en Écosse, et y compris quand elle est à Windsor, d'ailleurs, dans son autre, une de ses autres résidences secondaires, elle porte des tenues, voilà, pragmatiques, imperméables, bottes, comme une petite mamie britannique qu'elle est aussi.
Alors, j'aimerais vous citer le journaliste Jean-Marie Durand, qui nous dit une chose très intéressante. Je le cite. Comme on parle depuis Kantorowicz des deux corps du roi, Elisabeth II a inventé les deux corps de la reine, le sien secrètement dissimulé derrière les grilles de Buckingham et celui offert aux artistes et aux admirateurs, sans qui elle ne serait qu'une statue de cire de Madame Tussaud. Vous êtes d'accord avec ça ?
Bah c'est ça, c'est to be seen, to be believed. Elle est en représentation permanente, la reine, et c'est ça qui la rend mystérieuse aussi, et c'est ça qui fait que ça doit être aussi compliqué à vivre. En tout cas, c'est ce que je raconte dans ce journal, mais je pense que c'est vrai que c'est compliqué parce qu'elle est obligée. Il y a une autre devise officieuse, c'est to keep a stiff upper lip, avoir une lèvre supérieure ferme qui ne bouge pas. En gros, c'est être dans une forme de stoïcisme, en fait, ne pas montrer ses émotions. Donc elle doit être toujours dans une forme de neutralité. C'est pour ça qu'elle ne parle pas de politique, elle ne dit pas si elle est pour ou contre le Brexit. Alors Macroche vous dira qu'elle est pour, mais en tout cas, elle doit garder cette neutralité et montrer très rarement ses émotions, ou alors sur des choses qui peuvent être fédératrices, comme l'environnement récemment, par exemple.
Alors Macroche, il est difficile de saisir la personnalité profonde d'Elisabeth II en raison d'un protocole très rigide. Vous écrivez que ce protocole est une chemise de fer, une chemise de fer destinée à la protéger.
Écoutez, moi je l'ai rencontrée à plusieurs reprises, ça fait 35 ans que je suis dans ce pays, je l'ai rencontrée une dizaine de fois. Elle ne m'a jamais rien dit, elle m'a toujours posé les trois mêmes questions. Depuis combien de temps habitez-vous au Royaume-Uni, Monsieur Roche ? Est-ce que vous vous y plaisez ? Et la troisième était complètement neutre, liée au cadre de la réception. La seule fois où elle a rué dans les brancards, je dirais, c'est quand elle m'a dit qu'elle espérait que les Français allaient voter pour Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen. Mais bon, bien sûr, j'étais au Monde à l'époque, ça a fait la une du Monde. Après, le Palais a démenti, mais ça ne lui coûtait rien, puisque ça montre que le Palais, qui à ce moment-là était très en retard sur toutes les questions de diversité et d'immigration, était contre l'extrême droite. Sinon, elle ne dit rien, et je vous assure, c'est tout un talent de ne rien dire dans près de 70 ans de règne.
Alors, la reine Elisabeth II est la reine du poker face. C'est la reine du contrôle de soi, Marion Lourd.
Ah bah oui, clairement, l'objectif, donc, c'est de cacher ses émotions. Ouais. Ses émotions. D'ailleurs, elle ne dit rien, par exemple, quand il y a ce scandale Epstein, vous savez, qui implique son fils...
Jeffrey Epstein.
Qui implique son fils Andrew, qui est accusé
Le fils préféré, paraît-il.
Voilà, le fils préféré, paraît-il, de la reine, parce qu'il est arrivé un peu plus tard aussi dans son règne et qu'elle était moins prise par ses obligations. Elle n'a rien dit à ce sujet. Elle l'a simplement démis de ses fonctions officielles, ce qui correspond à une autre de ses caractéristiques qui est le respect du devoir et la sauvegarde de la royauté. Il fallait qu'elle l'enlève de ses fonctions officielles et en revanche, elle l'a gardée auprès d'elle, c'est-à-dire qu'elle l'a invitée de façon personnelle à Windsor, etc. Mais elle n'a rien dit alors que c'était un scandale d'ampleur internationale.
Marc Roche, Elisabeth II, c'est un modèle de self-control absolu que ne renierait pas le moine bouddhiste Mathieu Ricard.
Oui, elle se contrôle en public parce que sa personnalité privée, on la connaît beaucoup moins. On ne sait pas si il y a eu des fuites comme quoi elle aime, elle a un grand humour. Moi, je n'ai jamais pu l'observer. Mais bon, il paraît qu'elle a un grand humour, qu'elle aime imiter les charades, ce genre de choses. Mais en gros, en public, et pour nous, c'est ça qui est important, en public, elle est un contrôle de soi. Mais vous savez, ça vient de son éducation. Son éducation, c'est les années 30. L'éducation de la haute aristocratie était de ne pas choyer les enfants, de ne pas s'en occuper, qui était laissée à des gouvernants. Et ensuite, elle a été très marquée par l'influence de sa grand-mère, la reine Mary, qui était très austère d'origine allemande, très austère, et qui lui a inculqué le sens du devoir et surtout d'éviter de trop s'amuser quand elle était jeune. Parce que avant l'âge de 10 ans, avant qu'elle devienne princesse héritière, elle était plutôt désinvolte, amusante, elle voyait ses petites copines sans protocole. Une fois qu'elle est devenue prince héritière sous l'influence de Mary, elle a changé totalement et c'est devenu le contrôle de soi pendant des décennies.
Et oui, Thomas Pernette, elle a fait sienne ce célèbre conseil du Premier ministre Benjamin Disraeli à la reine Victoria. Never explain, never complain. Ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer.
Oui, et puis alors là, on voit le côté positif de cette réserve, notamment politiquement, mais ça lui a joué des tours. Il y a un moment, rappelez-vous, de la froideur supposée d'Elisabeth II, notamment dans ces terribles années 90, où, bien sûr, elle a perdu notamment son ex-bru Diana. Donc, on se disait, mais elle ne pleure même pas pour Diana. D'ailleurs, la famille royale avait été très loin à réagir. Il a fallu attendre 5 jours avant qu'il rentre de Balmoral suite au décès de Diana, la veille des obsèques. Et puis, on a vu, malgré tout, moi j'ai envie de dire... cette personnalité un peu s'assouplir. Alors les années aidant, les petits-enfants aussi aidant, il y a bien sûr un enjeu d'image, d'une reine plus souriante, d'une reine plus humaine, et puis peut-être aussi qu'elle a appris, elle aussi, excusez-moi l'expression, à lâcher un peu la pression.
Marc Roche, Elisabeth II, serait d'un naturel méfiant, renfermé, peu expansive. On sait quelque chose sur cet aspect de sa personnalité?
Écoutez, c'est une personnalité, certains, qui est timide. Très timide. Donc, elle est très mal à l'aise avec les inconnus qu'elle rencontre toute la journée. Elle tient toujours ses distances. Il est quasi impossible de franchir cette distance. Vous ne pouvez pas lui serrer la main.
Vous je ne m'y risquerai pas.
Parler sans qu'elle vous parle. Et donc, c'est cette armure, à la fois le protocole et sa personnalité timide, qui fait que personne ne la connaît très bien, mais en même temps, tout le monde l'admire, sans la connaître. C'est quand même extraordinaire.
Bon, on ne sait pas grand-chose donc de sa psychologie. On en saura peut-être davantage si un jour les historiens ont accès à son journal intime classé secret défense. La recherche en psychologie a bien montré les vertus thérapeutiques du journal intime, comme l'a montré le chercheur James Pennebaker, qui a montré qu'écrire sincèrement et précisément ses expériences existentielles est bénéfique pour notre santé psychique et notre équilibre émotionnel. Alors vous, Marion Lourd, vous avez fait le pari de vous mettre dans la peau de la reine d'Angleterre et d'imaginer son journal intime. Comment vous est venue cette idée ?
Je crois que je me censure quand même un peu moins qu'elle, hein, et que si un jour on ouvre son journal intime, effectivement, on va se rendre compte qu'en fait c'est surtout une succession de rendez-vous et peut-être de remarques sur la météo. Mais comment ça m'est venu ? Ça m'est venu à l'époque où j'étais encore correspondante en fait au Royaume-Uni, en 2019, où il y avait cette succession de votes sur le Brexit qui s'enchaînait, une espèce de dramaturgie, etc. Et en fait, plus personne n'y comprenait rien, y compris les Britanniques. Et je me suis dit que ça serait intéressant d'être dans la peau d'un témoin vraiment privilégié, puisque c'est la reine, elle a accès à tout. Elle reçoit tous les jours des boîtes rouges avec les comptes rendus, des débats, des réunions, etc. Elle a accès à tous les documents officiels.
C'est la femme la mieux informée d'Angleterre.
La mieux informée, et elle ne peut rien faire. Hein. C'est ce que disait Marc, elle ne peut rien dire, elle ne peut rien faire. Et donc, je me suis dit, quand même, alors d'une part, c'est intéressant parce qu'elle a accès à tout et qu'elle peut raconter de façon informée tout ça. Et d'autre part, elle doit quand même en avoir marre de voir son peuple se déchirer sur notamment le sujet du Brexit et de ne pouvoir rien dire. Et c'est là que je me suis dit, alors c'est le moment de faire cette petite soupape de sécurité qui est My Diary.
Alors dans votre livre My Diary, le journal intime de la reine, vous montrez qu'elle est neutre en apparence, hein, elle n'en pense pas moins. Tiens, à propos du Premier ministre britannique Boris Johnson, voilà ce que vous lui faites dire. Par quel miracle, Dieu seul le sait, cet individu parvient-il à dénicher des costumes systématiquement mal coupés ? Par quel mystère, même en sortant de chez le coiffeur, cette ignace donne-t-elle l'impression de n'avoir jamais croisé un peigne ? Ne parlons pas de sa prestance dépenaillée, de ses blagues parfois osées, ni de sa progéniture éparpillée à tous les vents.
Bon, là, c'est la partie romancée. Hein. Oui. Je ne sais pas effectivement ce que dit Elisabeth de Boris Johnson. Ce qu'on sait, c'est qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche quand même, parce que dans un documentaire qui était sorti dans les années 60, sur sa famille, elle avait traité un ambassadeur américain de gorille. Donc pourquoi est-ce qu'elle traiterait pas Boris Johnson de débouriffé ? Effectivement, dans tout le livre, elle le traite débouriffé, mais je pense qu'effectivement c'est ça. Et en plus, c'est l'exact opposé d'Elisabeth, Boris Johnson, parce qu'il est bon. C'est vrai qu'ils ont une culture commune au sens où il a suivi les grandes allées du pouvoir et un parcours assez classique. Mais en revanche, il est aussi désordonné qu'elle est cadrée, qu'elle a un sur moi puissant, etc. Lui, il s'exprime un peu dans tous les sens. Et donc, je pense que le choc entre les deux a dû être et doit être encore toutes les semaines, puisqu'ils se rencontrent toutes les semaines, assez rigolo.
Marc Roche, j'imagine que vous rêvez de lire le vrai journal intime d'Elisabeth II. Hein, je vous vois qui c'est.
J'ai pris beaucoup de plaisir à lire celui de Marion, très bien fait, qui m'a donné beaucoup de plaisir. Écoutez, on ne sait rien de ce journal intime. Ce que l'on sait, c'est la seule chose, c'est qu'en fait, elle n'écrit pas longuement dans son journal intime. Elle écrit tous les jours, mais elle écrit quelques phrases, quelques impressions. Vous savez, c'est pas une intellectuelle, c'est pas un écrivain. Elle n'aime pas beaucoup les artistes. Elle a une éducation très sommaire avec des précepteurs, seulement quelques heures par semaine. Le fait qu'on lui a enseigné, elle a dû aller à Eton pour qu'on lui enseigne l'histoire constitutionnelle, montre que, en fait, elle était, comme je le dis dans mon livre, pas du tout préparée à monter sur le trône. Elle ne voulait pas être reine à ce moment-là, à 26 ans. Elle espérait avoir une famille normale et puis aider son père. Mais malheureusement, le destin a fait que...
Vous nous raconterez tout à l'heure la vie quotidienne de la reine Elisabeth II. C'est l'un des chapitres de votre livre, Marc Roche. J'aimerais qu'on accueille Jules. Bonjour Jules.
Bonjour.
Tu as 16 ans, je peux te tutoyer, j'ai le droit ?
Ah oui, tout à fait.
Pourquoi aimes-tu la reine Elisabeth II ? Qu'est-ce qui te fascine dans sa personnalité, dans la psychologie qu'elle donne à voir ?
Elle représente pour moi tout un symbole. Enfin, c'est vraiment le plus gros symbole du Royaume-Uni. Pour moi, c'est toutes les personnes de mon âge sont nées sous le règne d'Elisabeth II. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est pas plus intéressé par les familles royales, les autres familles royales d'Europe, car ça, c'est pas que ça change souvent, mais c'est Elisabeth II, on est né avec et on a fait notre vie avec cette même reine tout le temps.
Mais à 16 ans, toi, qu'est-ce qui te fascine dans sa personnalité? Qu'est-ce qui te plaît?
Elle est l'histoire du Royaume-Uni, en fait. Sa vie est tellement importante qu'elle occuperait, et je pense souvent qu'elle occuperait beaucoup de place dans un manuel scolaire, en fait. Elle est tellement importante, cette reine, que moi, je ne peux que l'admirer.
Mais justement, pourquoi est-ce que tu l'admires? Quelles sont ses qualités personnelles qui font que tu l'admires?
Je ne sais pas quoi trop dire, en fait, parce que je l'admire parce que, je sais pas vraiment, en fait, c'est parce que je vais me répéter, elle est tellement importante qu'en fait, j'arrive pas à dire pourquoi je l'admire tellement elle est importante, en fait.
Tiens, Thomas Pernette, pourquoi est-ce que vous êtes fasciné par la reine d'Angleterre?
Je pense pour les mêmes raisons que ce jeune homme, finalement. C'est tout un symbole, c'est l'histoire vivante, l'histoire en marche. Alors, moi, j'admire aussi, bien sûr, son sens du devoir. On a parlé de ses devises. Moi, je trouve que le « never explain, never complain », ne jamais s'expliquer, ne jamais se plaindre, c'est quand même une ligne de conduite incroyable.
Ça pourrait être une devise de vie qu'on pourrait appliquer.
Bien sûr, mais finalement...
Dans une époque hyper narcissique, qui se répand sur les réseaux sociaux, etc.
Mais oui, je suis d'accord.
Dans une époque très victime, etc., de se dire, voilà, ne jamais se justifier, ne jamais se plaindre, ça peut être une ligne de conduite dans sa vie personnelle.
Un oubli
c'est
de soi.
C'est inspirant, ça.
Un oubli de soi et un sens du devoir, on l'a déjà dit ce matin, et je pense que c'est très important, et je suis assez fasciné de voir un jeune homme de 16 ans qui nous dit que c'est son idole ultime. Pardon, je parle beaucoup de moi ce matin, moi c'était les Spice Girls à 16 ans. Je trouve qu'Elisabeth II, c'est quand même aussi une Spice Girl, et certainement la reine des Spice Girls.
Marion Lourd.
Non mais effectivement, déjà on l'admire parce qu'elle est là. Parce qu'elle
Merci
est là,
d'être là.
Voilà, et qu'elle est là et qu'elle dure. Et alors effectivement, par rapport à une époque dont vous disiez qu'elle est narcissique, c'est vrai que c'est vraiment le grand contraste dans la famille royale entre le couple Harry et Meghan et la reine d'Angleterre. C'est-à-dire que eux ont annoncé sur les réseaux qu'ils voulaient quitter, enfin avoir un pied en dehors, un pied en dedans de la royauté. Elle, la seule émotion qu'elle a laissé transparaître là-dedans, c'est dans un communiqué, au détour d'un communiqué, qu'ils étaient attristés. Elle et Philippe, donc son époux. Voilà, et elle continue d'être là, elle continue de mener la barque de la royauté, et pourtant elle a eu, y compris durant les 3 années dont je parle dans le livre, une série de drames familiaux, politiques, et puis elle incarne l'unité. Alors ça c'est plutôt peut-être pour les Britanniques, mais dans un royaume qui est complètement divisé, l'Écosse voulait rester dans l'Union européenne, l'Angleterre voulait en partir, elle est... Là, elle est l'unité, elle est un roc en quelque sorte.
Un roc, oui, rassurant, à une époque liquide, sans phare ni balis, c'est vrai que la reine Elisabeth, elle est rassurante. Il y a un côté anxiolytique, justement, Thomas Pernette.
Je sais pas si elle
aimerait. Chapeau aussi, d'ailleurs.
Je sais pas si elle aimerait, mais oui, j'ai envie de dire, à un moment, hop, n'hésitez pas, mettez un foulard, allez vous balader dans les landes écossaises, et puis arrêtons de nous plaindre.
Ou alors en Bretagne, ça peut
en
être.
En Bretagne, hein, ça marche en toutes les régions de France, on salue toutes les régions de France.
Marc Roche, sur le témoignage du jeune Jules.
Écoutez, moi, comme Thomas Pernette, je suis stupéfait qu'un jeune homme de 16 ans soit fasciné par la reine Elisabeth II, d'autant plus stupéfait qu'elle a un déficit de popularité auprès des jeunes, particulièrement dans les minorités ethniques, à cause du manque de diversité au palais, à cause du fait que quand même son règne est associé à l'ancien ordre aristocrate blanc anglo-saxon protestant, et que le mouvement républicain qui, dans ce pays, fait autour de 15-20% au maximum, recrute, il recrute auprès des jeunes. Donc, félicitations qu'il existe des monarchistes en France.
Et pourtant, c'est une icône de la pop culture. Hein. On l'a vu, il y a eu notamment des détournements de ses vœux d'un discours. Il y a eu un faux discours de la reine qui a été fait. Ça a déclenché un scandale. Le gendarme des médias a reçu des tas de lettres parce que les gens étaient scandalisés qu'on puisse toucher à ce point-là à la reine.
Et puis, merci Netflix. Pardon, mais on en a déjà parlé. La série The Crown, alors, elle n'est pas toujours peinte dans les meilleurs aspects. On retrouve la froideur et toutes les fragilités et les failles de cette famille. Mais quel succès populaire mondial, notamment parmi les jeunes. Je suis sûr que Jules est aussi un fan de Netflix et aussi un fan de The Crown.
Jules, tu restes avec nous justement. Tu peux intervenir à ta guise au cours de cette émission. On parlera de la série The Crown en fin d'émission. Alors que vous aimiez Elisabeth II ou pas du tout, n'hésitez pas à intervenir au 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter. Dans un instant, on continue à explorer la psychologie d'Elisabeth II et on verra à quoi ressemble une journée type de reine d'Angleterre. En attendant, on écoute Fred Astaire, Cheek to Cheek, un titre sorti l'année où elle devint reine.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to
Cheek to cheek, il paraît que c'est l'une des chansons préférées de la reine Elisabeth II.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
10h34 dans la tête d'Elisabeth II, c'est notre thème ce matin pour célébrer l'amitié franco-britannique en ce 11 novembre. Standard ouvert au 01 45 24 7000.
Votre Majesté, acceptez-vous de prêter serment ?
Oui, j'accepte.
Que votre tête soit ointe avec l'huile sainte, comme les rois, les prêtres et les prophètes ont été oints.
Des huiles et des serments, des globes et des sceptres, tant de symboles empilés les uns sur les autres. Une accumulation insondable de mystères et de liturgies ésotériques. Dans un tel mélange de genres, que plus aucun ecclésiastique, plus aucun historien ou avocat ne pourrait y démêler le vrai du faux.
C'est de la folie.
Au contraire, c'est parfaitement sensé. Qui demanderait de la transparence quand on peut avoir de la magie? Soulevez le voile. Et il vous reste seulement une jeune femme ordinaire, avec des capacités modestes et une imagination limitée. Mais habillez-la ainsi, donnez-lui une onction d'huile sacrée. Et illico presto, que voyez-vous? Une déesse.
Que Dieu préserve la reine.
Édouard VIII qui commente le couronnement d'Elisabeth II en 1953 dans la série The Crown. Quel est justement le rôle d'Elisabeth II, Marc Roche? Jean-François nous écrit « Il serait peut-être bon dans votre émission de préciser la fonction officielle de la reine d'Angleterre. Cela tient à un mot, aucune. » C'est un peu rude.
Alors, elle a d'abord, ses fonctions sont honorifiques. Donc, elle est chef de l'État, chef du Commonwealth, chef des armées, chef de l'Église anglicane, et c'est très important dans la mesure où c'est une femme très croyante et que l'Église anglicane, l'Église héritée d'Henri VIII, est la religion officielle. Et en fait, son pouvoir est un pouvoir d'influence, elle n'a aucun pouvoir direct. Si le Parlement décidait « il faut exécuter la reine », eh bien, elle irait à l'échafaud. Elle signerait sa mort. Donc, elle n'a aucun pouvoir, elle n'a aucun pouvoir politique, mais elle a un pouvoir d'influence, notamment diplomatique, où elle épaule le gouvernement dans sa tâche. Elle met de l'huile dans les rouages des relations étrangères du Royaume-Uni, particulièrement en ce qui concerne les anciennes colonies et les dominions. Mais surtout, elle a un pouvoir d'influence par son silence. C'est-à-dire, comme elle ne dit rien, et que dans les périodes controversées comme celles que l'on connaît actuellement, à la fois avec le Brexit et avec la pandémie, elle est là par son silence ou par ses discours qui sont quand même préparés par le gouvernement. Le seul discours qu'elle écrit de sa propre main, c'est son message de Noël. Il est inodore et incolore. Et donc, elle a un pouvoir d'influence et elle a surtout derrière elle ce respect des sujets qu'aucun politique n'a.
Marion Lourd.
Alors, un pouvoir d'influence aussi, parce qu'elle rencontre le Premier ministre toutes les semaines. Hein. Bon, ça permet d'imaginer toutes sortes de confrontations avec Boris Johnson, par exemple. C'est ce que je fais dans mon livre. Mais elle peut lui dire, non, sans s'opposer frontalement à lui, lui donner un sentiment ou lui poser des questions, qui veut l'orienter, le mettre sur une piste, etc. Lui n'est absolument pas tenu de l'écouter. D'ailleurs, le secret est complètement gardé sur ses rendez-vous. Mais en tout cas, elle le rencontre et elle peut lui dire des choses.
Thomas Pernet.
Et puis un symbole de soft power, c'est-à-dire qu'Elisabeth II, c'est une marque mondiale, comme le sont les Windsor, mais le produit principal reste Elisabeth II. Il y a une étude très intéressante d'une université britannique qui disait que, par exemple, les Chinois sont beaucoup plus enclins à acheter des produits ou des services qui sont associés à la maison royale. Alors, je vous rassure, la reine ne va pas vendre du lait en Chine, même si un de ses petits-fils s'y est risqué, et Dieu sait qu'il a été rattrapé par les tabloïds britanniques. Mais néanmoins, une fois de plus, cette longévité et cette image lui donnent un pouvoir. On pense qu'en 2012, si Londres a eu les JO, c'est aussi parce que le CIO, le comité international olympique, était absolument heureux de pénétrer les portes de Buckingham, le palais de Buckingham. Et d'ailleurs, il y a eu ce film génial où elle saute en parachute, pas elle, je vous rassure, avec James Bond, qui a fait 900 millions de téléspectateurs au moment de la cérémonie d'ouverture.
Marc Roche, vous vous demandez comment cette jeune fille introvertie, timide, impréparée à la tâche de reine, comment eh bien, elle a acquis cette autorité naturelle?
Je pense d'abord qu'elle avait cette autorité naturelle. À l'inverse de sa sœur, Elisabeth était déterminée, était sérieuse vers le roi. George VI, son père, disait qu'elle est un peu étrange parce que lui préférait Margaret, qui était beaucoup plus désinvolte, amusante. Mais je crois que dès le départ, c'était une personnalité froide, un animal au sang froid. Et donc, elle s'est imposée justement parce qu'elle était sérieuse, elle a pris très au sérieux sa fonction, à l'inverse, par exemple, de son oncle Édouard VIII, qui a dû abdiquer par amour pour Wallis Simpson. Elle la charge comme l'ont dit les deux autres participants, la charge est essentielle, c'est au cœur. Et comme tous les Britanniques, elle est assez pragmatique. Elle a appris sur le tas. Vous savez, les Britanniques ne font pas de plan sur la comète. Ils s'adaptent, ils apprennent sur le tas. Elle a eu des premiers ministres qui l'ont aidée, d'autres qui ne l'ont pas aidée. Il y a eu des chefs d'État étrangers dont elle était particulièrement proche qui l'ont épaulée. Et je crois qu'il faut surtout insister sur le rôle formateur, bien sûr, de son premier ministre, qui est Winston Churchill.
Alors, comment Elisabeth II peut inspirer notre vie de couple? C'est un chapitre de notre émission. Elisabeth II nous montre qu'il ne faut pas hésiter à se mettre en couple avec une personne qui est tout le contraire de vous. Elle est sérieuse, introvertie, je l'ai dit, réservée. Son mari, Philippe Mountbatten, était drôle, sociable, gaffeur, malicieux. Marc Roche, c'est l'alliance de deux contraires.
Oui, et c'est ce qui a fait le succès de ce couple pendant 73 ans, cette alliance justement des deux contraires. Vous savez, la reine, personne n'ose lui dire la vérité. Elle est protégée par le fait que les courtisans, un peu à son image, donc l'appareil du palais, eh bien, c'est quand même des gens qui évite de s'opposer à elle quand il faut, mais ils doivent tellement mettre des formes que finalement c'est assez soft comme intervention. Et donc Philippe lui était le seul qui pouvait lui dire la vérité, que ça lui plaise ou pas.
Bref, un conseil Romain vous fasse, ne vous acharnez pas sur les applis de rencontre à rechercher quelqu'un qui vous ressemble, hein, Marion Cour.
Oui, voilà, et puis il faut aussi chercher, enfin, on peut aussi se mettre en couple avec quelqu'un qui est puissant, parce que Philippe c'était un mâle alpha, en quelque sorte, c'était un homme qui aimait être au centre des choses, qui aimait être important, et il a marché toute sa vie quelques pas derrière la reine, donc voilà, ça a marché finalement.
Thomas Pernet,
mettez-vous avec un militaire, voilà.
Allez, j'aimerais qu'on s'intéresse à la vie quotidienne d'Elisabeth II. Vous racontez, Marc Roche, une journée type, hein, dans votre livre. Elle ne voulait pas être reine. Tiens, si un jour je suis invité à la table de la reine Elisabeth II, ce qui n'est pas assez peu probable, comment dois-je me comporter? Il y a une stricte étiquette à respecter, hein.
Très stricte étiquette. D'abord, vous ne lui parlez pas à celle qui vous parle. Lewis Hamilton, le champion automobile, l'a pris à ses dépens. Lui, tout de suite, il lui a parlé. Il a été remis à sa place et il le raconte d'ailleurs très, très joliment. Non, donc vous ne lui parlez pas à celle qui vous parle, celle qui vous met à l'aise. Et puis, il y a une règle que vous parlez, alors je ne m'en souviens plus si c'est avec votre voisin de droite à l'entrée, avec votre voisin de gauche,
au plat principal.
Plat principal. Et au dessert, vous choisissez lequel des deux est le plus intéressant. C'est ce que moi j'ai fait. L'expérience lors des deux banquets à Windsor pour Chirac et pour Sarkozy. Le problème, c'est que ni à gauche ni à droite, ils étaient particulièrement intéressants. Mais comme j'étais placé en tant que journaliste près des cuisines, vous savez, l'important était d'y participer.
Voilà, il faut se dépêcher de manger aussi, Ali, hein, parce que quand la reine a fini de manger, vous aussi, vous devez avoir terminé. Donc, mangez vite.
Si je me retrouve avec elle en audience privée, il y a des sujets interdits. Est-ce que je peux lui parler de politique, de religion, de sa situation personnelle? J'ai le droit ou pas, Thomas Pernet?
Moi, je vous le déconseille, comme l'a dit Marc Roche, hein, vous laissez la reine faire la conversation. On le voit pour les garden parties. Vous savez, vous êtes invité à une garden party, elle en donne 4 chaque été, 3 à Buckingham, 1 en Écosse. Et alors, n'espérez pas sauter sur la reine et faire un selfie, malheureux. Elle arrive, elle a un chemin défini, vous avez des huissiers qui repèrent les personnalités intéressantes, qui griffonnent sur un petit papier vos qualités, d'où vous venez, et voilà, et hop, vous avez la chance, elle vous pose 3 questions, comme les questions qu'elle a certainement posées à notre...
Vous aimez les chiens aussi, par exemple.
Voilà, il fait beau, il fait pas beau, et voilà, et quel grand honneur, mais n'espérez pas lui raconter vos problèmes de vie intime.
Alors, à une époque qui se passionne pour l'excès, la radicalité, Marc Roche, on pourrait s'inspirer du sens de la pondération et de la nuance d'Elisabeth II?
Oui, elle est aussi d'une autre génération, c'est-à-dire une génération beaucoup moins clivante, beaucoup plus respectueuse, où chacun connaissait sa place et ses classes sociales étaient bien démarquées. Et donc, c'est vrai qu'elle est une personnalité très stable, qui dont on ne connaît aucun excès. Et parlant de nourriture, de banquet et de manger vite, elle mange peu. Et, elle boit très peu. Et donc, vous devez aller vite puisqu'elle
picore
sa nourriture. Et de toute façon, la nourriture servie à Buckingham, il n'y en a pas beaucoup. Donc, vous mangez peu, vous buvez peu. Et d'ailleurs, tous les membres de la famille royale sont plutôt minces. Elle y compris.
Vous disiez qu'on mangeait peu, etc. Mais est-ce qu'elle est un peu pingre ? Il paraît qu'elle est, enfin, très économe pour parler politiquement correct. C'est vrai ou pas ?
Écoutez, elle est proche de ses sous. Elle fait des économies quand il le faut. Elle n'aime, vous savez, quand m'a-t-on dit des gens qui sont allés à Balmoral en week-end, vous apportez un gros pull parce qu'il fait froid, le chauffage est mis au plus bas, l'alcool est servi avec raisonnablement,
parcimonie.
Par contre dans les pubs ou dans ce pays d'ivrogne qu'est l'Angleterre, elle fait attention. Vous savez, c'est comme toutes ces grandes aristocraties, ces toutes bourgeoisies très riches. On fait attention, on ne dépense pas, on ne jette pas l'argent par les fenêtres. Ça, c'est pour les nouveaux riches.
Thomas Pernet,
c'est aussi la reine du recyclage. Et on le voit avec ses tenues et ses chapeaux. Et ça, depuis les années 80, on disait encore la reine d'Angleterre est parmi les femmes ou la femme la plus riche du monde. Et déjà à l'époque, les journalistes louaient son sens du recyclage. Et aujourd'hui, on le sait, hein, elle porte une tenue plusieurs fois. Puis ensuite, quand la tenue est trop familière aux yeux des médias, eh bien, hop, elle va dans sa garde-robe privée à Balmoral ou à Sandringham.
I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time, a time of disruption in the life of our country, a disruption that has brought grief to some.
Alors là, on entend la voix d'Elisabeth II, c'est une allocution le 5 avril 2020 en pleine crise sanitaire, message de courage dans l'adversité que les chaînes info françaises avaient retransmis en direct. Elle demande à ses sujets britanniques de ne jamais perdre espoir. Pour vous, Marc Roche, c'est un discours remarquable, c'est du grand art pour vous.
Ah, c'est du grand art. Vous savez, il est un peu inspiré quand même de son discours aux enfants pendant la guerre en 40, les enfants qui avaient été évacués. Et elle, justement, les Britanniques ont été particulièrement sensibilisés à ce discours parce qu'il leur rappelait ceux qui l'ont connu. Et la génération d'après leur rappelait bien sûr la Deuxième Guerre mondiale, seul contre le nazisme, seul contre la pandémie. Courage, nous allons nous en sortir tous ensemble. C'était exactement un discours qu'aurait pu tenir son père lors de la Deuxième Guerre mondiale ou elle-même dans les premières années de son règne lors des difficultés du rationnement et les difficultés de la décolonisation. Courage, prenez mon exemple. Croyez en l'avenir. C'est extraordinaire pour une dame de 80, à l'époque 93 ans.
Alors, le jour de cette allocution, Elisabeth II était habillée en vert. Le grand historien des couleurs, Michel Pastoureux, nous dit dans la revue Légende, « Mieux vaut comme Elisabeth II se doter d'une singulière identité visuelle et se montrer en toute occasion vêtue de couleurs vives. » Alors, Thomas Pernet, vous approuvez forcément, vous qui avez qui publiez un ouvrage consacré au chapeau de la couronne. C'est un sujet moins futile qu'il n'y paraît, hein, Thomas Pernet. Hein.
Oui, c'est vrai. Alors, on a le vert, par exemple, regardez, là, pour le dernier message qu'elle a donné pour la COP26, elle était en vert. Je pense elle est allée à Dublin, en Irlande. Aucun souverain britannique n'était allé depuis son grand-père en 1911, parce que bien sûr, il y a cette histoire très compliquée entre l'Irlande et la Grande-Bretagne, elle était en vert. Oui, on a envie, et il y a forcément des messages au moins diplomatiques, si ce n'est politiques, dans les tenues de la reine et dans les chapeaux. Après, Marion Lourd s'est mis dans la tête de la reine. Moi, j'essaie de me mettre sur la tête de la reine. C'est différent. Pour parler de ses chapeaux.
Que nous disent ces chapeaux et que racontent-ils de sa personnalité ?
Déjà que, en dehors de toute considération esthétique, c'est une femme pratique, pragmatique, c'est-à-dire ses chapeaux ne doivent pas être trop larges ou trop grands pour qu'elle sorte de voiture facilement, ils ne doivent pas bien sûr tomber ou elle ne doit pas être décoiffée. Après, ils sont aussi une fenêtre formidable pour voir le règne. Alors il y a l'histoire de la mode, bien sûr, mais c'est quand même la femme qui a porté le plus de chapeaux au monde depuis qu'elle est toute petite, depuis les années 30, avec ses grands-parents, la reine Marie et le roi George V, et certains d'entre eux ont fait un buzz incroyable. Rappelez-vous de ce célèbre chapeau soi-disant anti-Brexit en 2017. La reine ouvre le Parlement. Alors, on l'ouvre à la va-vite, entre guillemets, parce qu'il y a eu des élections anticipées. Elle arrive avec un chapeau bleu, avec des marguerites jaunes, et là, tout le monde se dit, mais mon Dieu, c'est le drapeau européen. Vrai ou pas, Angela Kelly, son habilleuse, dira plus tard, non, c'était une pure coïncidence, mais le buzz est quand même là.
Angela Kelly, c'est son habilleuse, c'est l'une de ses amies, elle a des amis, Marion Lourd, la reine d'Angleterre, ce sont ses dames de compagnie, qui sont ses amis?
Voilà, elle a des amis qui sont effectivement ses dames de compagnie, mais qui sont très âgées aussi, hein, donc voilà, elles vont pas sortir tous les jours, d'ailleurs, elles peuvent difficilement sortir. Non, elle a des amis, mais qu'elle ne voit pas souvent, parce qu'en réalité, alors là, son agenda a été allégé pour des raisons de santé, mais elle a des centaines d'engagements auprès d'associations, auprès d'institutions, de parcs, de musées, etc. Et donc, elle a quand même très rarement le temps d'entretenir une vie sociale.
Oui, elle a des amis, elle a une cousine, Margaret Rhodes, qui est une cousine du côté de sa mère. Il y a des gens aussi qui sont assez proches d'elle, comme Alastair Bruce, qui est aujourd'hui le gouverneur du château d'Édimbourg, qui est quelqu'un de proche, qui la voit, etc. Mais oui, c'est quelqu'un qui, malgré tout, je pense, par sa personnalité, quelqu'un solitaire.
Ouais. Allez, dans un instant, on s'intéresse à une fiction qui a contribué à la légende d'Elisabeth II. En attendant, on écoute PR2B qui interprète Mélancolie. Ça fait du bien en ce 11 novembre.
Sans 70 au compteur, je passerai presque inaperçu. On s'est écrit tout à l'heure, je ne veux pas de malentendu. On s'habitue à presque tout. C'est fou comme on s'attarde. Envie déçue ou amour fou. Y'a mes idéaux qui me lâchent. Tu reviendras toutes les nuits, même si je ne t'appelle pas. Je te rêve l'après-midi, je te cherche dans les draps. T'appelles mélancolie, tu repars comme on te voit. C'est une bien vilaine manie, mais on ne s'en passerait pas. Même si je ne t'appelle pas, mélancolie. Encore un après-midi, à mater la rue de chez soi. Si seulement ça faisait envie. Faire n'importe quoi. On s'habitue à presque tout. C'est fou comme on s'attache. Là dans mon cou, tu es revenu. Y'a ma raison qui me lâche. Tu reviendras toutes les nuits, même si je ne t'appelle pas. L'après-midi, je te cherche dans les draps. On t'appelle mélancolie, tu repars comme on te va. C'est une bien vilaine manie, mais on ne s'en passerait pas. Même si je ne t'appelle pas, mélancolie, je te cherche dans les draps.
PR2B interprété Mélancolie.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
10h53, dans la tête d'Elisabeth II, c'est notre thème ce matin pour célébrer l'amitié franco-britannique en ce 11 novembre.
Son Altesse Royale, la Princesse Margaret.
Je vous ai demandé de venir pour vous dire que j'ai poursuivi ma réflexion. J'ai longuement réfléchi. La question de votre mariage. Ces dernières semaines, ces derniers mois, a été au cœur d'un très grand nombre de choses. Notre pays, ses valeurs morales, le divorce, mais aussi quelque chose qui me touche de plus près. Qui je suis? Qu'est-ce que je suis? Ce mariage implique d'entrer en conflit avec des membres de notre famille, avec d'importants courtisans, avec nos ministres. Vous savez que je déteste la confrontation, le désordre, le manquement au devoir. Pourtant, j'étais prête à m'engager sur cette voie. Et à vous soutenir en tant que sœur. Parce que je vous ai donné ma parole. Mais je me suis rendu compte qu'en tant que reine, je n'avais pas le choix. Je ne peux pas vous laisser épouser Peter et continuer à faire partie de cette famille. Telle est ma décision. Me pardonnerez-vous?
Extrait de la série The Crown, une série de Peter Morgan et Stephen Daldry. Bonjour Marianne Lévy, bienvenue.
Bonjour Ali.
Vous êtes romancière et scénariste, autrice du blog I Love TV So What. Donc la série à succès The Crown raconte le règne d'Elisabeth II, elle connaît un succès planétaire. Alors les auteurs du livre The Crown, le vrai du faux, publié chez Grund, rappellent que la série est truffée de détails plus vrais que nature, mais le script a tout de même multiplié les approximations, les petits mensonges et les gros raccourcis. Mais tout de même, cette série raconte des choses passionnantes sur la personnalité d'Elisabeth II, sur sa psychologie.
Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que The Crown, c'est un peu une obsession, l'aboutissement d'une obsession de Peter Morgan pour Elisabeth. C'est un personnage qui le fascine depuis longtemps. Hein. Peter Morgan, il avait déjà écrit The Queen, le film de Stephen Spears. Donc, il a une relation lointaine pour toutes les raisons que vous avez évoquées dans l'émission et en même temps une proximité avec elle. Donc dans sa série, tout est faux et tout est vrai à la fois. C'est-à-dire qu'il se base sur toute la doc qui est disponible, mais en même temps, ce qu'il étudie, c'est ce que cette femme, la schizophrénie dans laquelle cette femme est enfermée, la femme ou la fonction. Et l'extrait que vous venez de diffuser sur la question du mariage de sa sœur, elle illustre parfaitement ça, c'est-à-dire cette espèce de combat perpétuel entre Elisabeth la femme et Elisabeth la reine.
Qu'est-ce que vous aimez dans The Crown, dans le portrait esquissé, dressé d'Elisabeth II?
Bon, écoutez, The Crown, c'est quand même la rencontre entre une icône de la pop culture, comme vous l'avez dit, et puis ça travaille notre fascination pour le backstage. Ce qui est formidable, c'est que quand on a eu la chance d'aller à Londres, et on est tous restés derrière les grilles de Buckingham, et on a tous eu envie de passer derrière ces grilles. Et c'est ce que nous offre The Crown, avec des moyens faramineux, parce qu'en fait, la série, je crois que sa première saison a coûté 2 fois le budget d'entretien de la famille royale pour une année. Donc vous voyez que la reconstitution est vraiment luxueuse et en plus le casting est incroyable. Les plus grands comédiens britanniques se succèdent dans cette saga qui débute quand elle n'est pas encore reine et qui se poursuivra jusqu'à nos jours, puisque la saison 5 est prévue pour 2022.
Thomas Pernet sur The Crown?
Moi, j'aime tout, sauf le traitement réservé au prince Charles.
D'accord. Bon, allez, au terme, merci beaucoup, Marianne Lévy, d'être intervenue dans l'émission. Au terme de cette émission, que retenir de la vie d'Elisabeth II et qui peut peut-être nous inspirer, Marc Roche, en quelques mots?
Le devoir, l'attachement à la tâche, mauvaise mère, mais excellente grand-mère, et puis incontournable figure historique. Comme disait Mitterrand, c'est une vraie reine, c'est la seule.
Marion Lourd.
Effectivement, le devoir, le stoïcisme et l'absence de mise en scène des émotions, et en même temps le bon curseur à trouver pour arriver à exprimer quand même un peu d'émotion et être quand même un peu humain au fond.
Thomas Pernet.
Le sens de la mode et le port du chapeau. Mesdames, portez les chapeaux.
Et messieurs aussi.
Je vais chercher le mien.
Oui, messieurs aussi.
Merci beaucoup. Merci Marion Lourd, My Diary. Je le prononce bien, je suis
My Diary.
Vous savez. Alors, je vous laisse le dire. Allez.
Vous parlez très bien, Ali. My Diary, journal intime de la reine.
Le journal intime de la reine est publié chez Flammarion. Merci Marc Roche, Elle ne voulait pas être reine, chez Albin Michel. Et merci Thomas Pernet, Elisabeth II, Les chapeaux de la couronne est publié chez EPA. Demain, grand main vous fasse, loisirs.